Tout le liste neuf inscrits, Luc de Bernice, Yannick Geoffrey, professeur Adebayo, Aïcha Diop, Fatou Adra, professeur Traoré, le doyen, et puis Geneva Diallo, et aussi monsieur le professeur, je ne connais pas votre nom, Foca. Bon, je vous remercie. Ok, professeur Foca. Donc, nous allons. Ah, voilà, monsieur, voilà, comment vous. Koulibaly. Voilà. Donc, la liste est maintenant close et nous allons maintenant appeler aux intervenants, Dr. Luc de Bernice. La question est posée pour que ça soit bien. Il faut aussi être conseillé. Thank you.
Oui, bonjour. Merci beaucoup. Et j'ai été ce matin extrêmement intéressé à nouveau par l'ensemble des présentations, mais vu le temps, je voudrais focaliser sur seulement quelques points. Et ma première remarque est sur la présentation de Mme Sow, dont je vous remercie beaucoup parce que c'est une présentation extrêmement importante pour nous tous. J'ai juste rapidement trois observations. Le fait que le droit, c'est un droit fondamental des individus, ça a été dit plusieurs fois pendant ce symposium, donc je pense que vous pouvez être rassuré, vous n'étiez pas là, mais ça a été vraiment placé sous l'angle du droit. Donc je voulais le rappeler et vous le dire de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette question, en tout cas, ça a été dit. Le deuxième point qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la sexualité des femmes, dont vous avez parlé beaucoup, et du fait que ce sont les femmes qui contribuent à transmettre les valeurs à leurs enfants et qui jouent un rôle, comme on le sait bien, extrêmement important dans la famille, dans l'éducation des enfants et donc la transmission de ces valeurs. Et dans ce sens-là, les femmes sont leurs principaux ennemis. Elles représentent celles qui vont maintenir des valeurs, y compris celles qui sont apparemment à l'encontre de leurs droits fondamentaux et à l'encontre de leur liberté. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut prendre du temps et réfléchir, parce que lorsqu'on travaille sur l'action, évidemment, comment est-ce qu'on peut aborder ces questions avec des groupes de femmes? Et je pense que les questions ne vont pas avancer si les groupes de femmes, si les femmes elles-mêmes ne prennent pas la parole et ne disent pas ce qu'elles veulent. Et on aura beau mettre tous les services en place, je pense que si les femmes ne sont pas entièrement actives pour que ces services répondent à leurs besoins, on n'avancera pas beaucoup. Dans le même sens, vous avez parlé de l'importance des messages donnés par les professionnels. Et je pense que c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Il y a un certain nombre de professionnels dans la salle, il y a aussi beaucoup d'enseignants. Quels sont les messages que les enseignants font passer auprès des étudiants sur le rôle du gynécologue obstétricien, sur le rôle de la sage-femme dans ses relations avec les patientes? Ce sont des choses qui ne sont pas assez débattues. Et est-ce que nous pourrions envisager de travailler sur ces questions? C'est ce qui va être décidé ce matin et je pense que là-dessus, vous avez mis le doigt sur un élément important. Je voudrais dire que sur cette question, le Fonds des Nations Unies pour la population travaille avec la Fédération internationale des gynéco-obstétriciens pour que les fédérations, les associations de gynécologues-obstétriciens réfléchissent précisément à la sexualité des adolescents et à comment les obstétriciens doivent aborder les adolescents dans leurs consultations, dans leur travail quotidien. Et c'est une première tentative qui me paraît très intéressante. En tout cas, il est décidé de la prolonger. Mais est-ce qu'il faut envisager d'autres choses? C'est, je crois, une question importante. Et puis, très rapidement, par rapport à la question des savoirs et par rapport à l'apport de l'anthropologie, moi, j'ai été très frappé par un certain nombre de présentations. Et je suis aussi frappé, en discutant sur le terrain avec des jeunes anthropologues, par leur soif d'action et leur difficulté à rester des observateurs, à rester en observation et pas à se mettre eux-mêmes dans l'action. Et j'ai eu ces discussions vraiment plusieurs fois et votre intervention ce matin m'a remis cette question en tête. Pour nous, quand on réfléchit au rôle que nous attendons peut-être des anthropologues, c'est certainement de garder cette faculté d'indépendance, d'observation et de nous dire ce que Yannick a très justement appelé la vérité de l'anthropologue, en tout cas sa capacité d'observation indépendante de ce que sont les faits, de façon à ce que, ensuite, non pas l'anthropologue nous donne des solutions, on a bien compris que ce n'était pas cela, mais que l'anthropologue et les autres puissent discuter ensemble de savoir comment on peut utiliser ce savoir pour le rendre réel. Mais je suis inquiet quand je me pose des questions quand je vois des anthropologues devenir des médiateurs, créer des groupes de discussion, se mettre au milieu de l'action. Je ne sais pas si c'est leur rôle, et en tout cas, c'est peut-être pas ce que moi j'attends de l'anthropologue dans la collaboration. Voilà les points que je voulais faire. Merci beaucoup.
Merci, Dr. Luc de Bernis. Monsieur Yannick Geoffrey.
Merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant ce matin, et j'ai l'impression que ça rentre parfaitement bien dans la suite des débats qu'on a eus depuis les premières journées, en passant par les problèmes autour de la fécondité, puis ensuite l'accès et la qualité des soins prodigués. Je pense que puisqu'on essaye d'avancer sur les possibilités d'action, il me semble qu'on peut repérer maintenant quelques accroches qui peuvent nous être utiles. La première chose, on voit bien comment il faut distinguer la reproduction comme étant une forme légitime de préoccupation médicale, et puis de l'autre côté, la sexualité qui est un agencement très complexe entre des données biographiques, historiques et sociopolitiques. Et on voit bien comment on ne pourra pas réduire la mortalité maternelle sans travailler sur ces agencements très spécifiques, socio-historico-politiques, que sont tous les agencements qui font que certaines sociétés construisent de manière particulière de la sexualité. Et je crois que ça, par exemple, cette articulation et cette différence entre deux concepts, la reproduction, un concept médical, la sexualité, la façon dont les anthropologues entrent et traitent cette question de la reproduction. Le deuxième, on en avait parlé déjà le premier jour, c'est que, clairement, le corps de la femme est un corps politique. De façon tout à fait évidente, à la fois parce qu'il manifeste les principales tensions et les choix sociaux que font les sociétés, entre par exemple certaines formes religieuses et certaines formes mondialisées des nouvelles érotiques. Et donc là on voit bien, et ça se manifeste dans l'ensemble du comportement. Les tenues vestimentaires, la façon dont on se déplace dans les quartiers, toutes ces questions-là sont des formes d'incorporation du politique par le corps de la femme. Et je pense que ça, par exemple, c'est une dimension qui maintenant apparaît très clairement. Le troisième point, c'est que on a beaucoup travaillé, et Dagobi nous a montré à quel point, disons, les messages d'éducation pour la santé étaient un peu, simplistes. Mais on peut aller encore plus loin. Et on voit bien que la question, ce n'est pas tellement celle des messages. Bien évidemment, il faut qu'ils soient autant que possible bien formulés dans les langues nationales, avec des procédures de traduction intelligentes, d'adaptation au milieu, etc. Mais la question qui est en jeu, ce n'est pas le contenu du message, c'est la position d'énonciation. C'est-à-dire, est-ce que la femme a le droit de parler en son nom et de revendiquer un certain nombre de choix ? Ou est-ce qu'elle est l'objet de nos messages sanitaires auxquels elle doit accepter ou auxquels elle doit se soumettre ? Et donc on voit bien que là encore, il y a une petite différence entre les contenus des énoncés et les postures d'énonciation. Et le dernier point qui me semble extrêmement important, c'est que on voit bien que, disons, au plus étroit des programmes dits de planification familiale, les messages qui sont véhiculés sont des messages qui, de toute façon, sont réinterprétés par les femmes ou par les collectivités sous forme sociopolitique. Et donc la question politique est au cœur, là encore, de ces questions de planification familiale. Mais surtout, pour répondre à Luc tout à fait dans son sens, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux postures pour l'anthropologue. Les deux, d'ailleurs, ne sont pas forcément antagonistes. Mais soit il rentre à l'intérieur de la demande des programmes de planification familiale et il essaye de bien les faire fonctionner. Après tout, pourquoi pas, ça concourt au bien-être de la femme. Mais il ne faut pas que l'anthropologue oublie que lorsqu'il reprend une casquette, disons, purement anthropologique, ces programmes de planification familiale sont aussi des prises de position politique dans le champ social global. Il y a la religion, il y a la planification familiale, il y a les revendications des femmes, il y a les novellas brésiliennes et les films porno. Et donc ça, c'est une arène complexe avec différents intervenants, et la planification familiale n'est qu'un de ces intervenants. pour l'anthropologue, ce n'est qu'un des intervenants, et c'est peut-être pas finalement le plus important quand on voit le poids, par exemple, des instances religieuses, comme vous nous l'avez montré à partir de ces exemples maliens. Voilà, merci.
Merci. La parole maintenant est à professeur Adebayo, Ghana. You have the floor.
Yeah, thanks very much, Madam Chairperson. Well, I'm interested in a number of issues, but I think the one I like to dwell, spend time on, is the issue about health education. This is not because I'm a specialist in this area. It's true, I have a degree in linguistics, but I have actually been involved in conducting researches which were aimed at facilitating health communication. And from that perspective, I find the presentation by Dogoli very exciting and very thorough. And I cannot help but agree with him that it's a very complex issue. It is indeed complex because it has so many dimensions to it. And I also agree with him that this is a program that should not be left to untrained, unschooled people to handle. Whoever is going to do this, nurses or whatever, I think ought to be given a certain amount of training to be able to do a better job when it comes to this. It is complex from from a number of perspectives. Number one, there's a question of a medium, and that is very crucial. What kind of medium are we going to use? If we are going to talk to local communities, we are going to talk to these people in their languages. But it strikes me that in certain national contexts, we're not really in a position to do this effectively. If you take the case of Ghana, where there are as many as 79 indigenous languages, of course, some are more important than others. And you have a case where the Ministry of Health is centralized. In other words, the core business is controlled from a central point, that is maybe Accra, where the ministry is based, I mean, the important offices and so on and so forth. So the result is that when you craft messages from the Accra perspective, maybe taking into account your knowledge of the local environment, those kinds of messages become ineffectual when you're sending them to faraway places which have a completely different kind of cultural environment. So medium certainly is very important here. And even where you're talking about the same linguistic community, we mustn't forget the fact that there are different differences in dialects. It's not just one language. Even within that language, there are still differences in dialects. And that can become an issue when it comes to getting people to understand exactly the messages that you want them to pick. But beyond message, beyond the medium, there is also the question of mode. Is it going to be by written mode? Is it going to be verbal? Is it going to be pictorial? Because all of these have got their challenges. If you take, for example, the tendency to communicate by means of pictures, very often pictures can be very easily misunderstood. Or in fact, to the extent that you can get the opposite effect. And I still remember reading many years ago about the Swazi case, where the veterinary department had decided that cattle should be fed a certain kind of substance, vegetation, to lactate better. So it was very easy for the artist to draw a picture of this, a cow eating some green substances. And behind the cow, you had several bottles painted white. Now, the message to whoever drew this was very clear. If you give your cattle this kind of feed, you get so many bottles of milk as a result. The local community didn't interpret this in the same way. As far as they were concerned, give the cattle that kind of feed, and you need so many bottles of medicine to cure them. So this is an example of how a pictorial illustration can be misunderstood. Now, when we come to the verbal issues themselves, let us bear in mind that different cultures, we're talking about relating two different cultures, biomedical culture on one hand, and then the local cultures on the other. If you take the disease taxonomy, for example, the way the biomedical segments, if you may take it as a cake, That segmentation is very different when you're talking about local communities. So it then becomes very difficult for you to find exact translation equivalents for some of the concepts and ideas that you want to carry across. For example, in certain cultures, there's no distinction between catarrh and headache. It's the same word that is used for that. Now, if biomedical people need to make that clear distinction between the two, then it strikes me that there is going to be a problem here. So really, we need to take all these things into account. And this is where a kind of training needs to be put in place so that people are aware that there are all these kinds of pitfalls which are going to happen. My final issue is, we expect local people to listen to us. But the question is, are we listening to local people? And I think it's very important that we listen to them and listen to them properly. For example, in my studies about acute respiratory infections and so on and so forth, which I conducted in several districts in Ghana, I was struck that sometimes people make, if you study some of the vocabulary items, and this is where cultural sensitivity, we're talking about how anthropology can be of use to policymakers. I think one way in which this can be helpful is to enable policymakers to be more culturally sensitive to the environment than they are. Now, if you take the example that I'm talking about, it is clear that these people have certain terms which they use to refer to different kinds of illness conditions and so on and so forth. Now, if you analyze those terms, they tell you a lot. I'm not sure that people do. For example, a kind of disease is referred to when we're trying to look at pneumonia. Yeah, pneumonia was described in certain cultures as a lizard chest, okay, which tells you something about what they consider as a critical symptom of the disease. And this kind of information also needs to be taken into account. And more so, you will not be surprised that these people tend to inoculate certain kinds of substances in children, especially they make cuttings on their chest, and this is where they introduce the substances. So all these kinds of information are lost to us, and it is very important that we take all these things on board if we are going to deliver messages as well as interventions in a very effective way. Thank you.
J'ai une question pour Professeur So. J'ai beaucoup aimé votre présentation sur la position du genre dans le discours médical et le discours de la santé publique. Et bon, je voulais vous poser une question. Si on prend par exemple le terme mortalité maternelle, on parle de la mortalité des mères et pas forcément des femmes. Et le rôle, les mères, comme vous avez dit, elles jouent un rôle très particulier dans les sociétés. Et je pense que cette terminologie ferme un peu la porte d'entrée pour les identités alternatives pour les femmes. Par exemple, si on parle de l'avortement et le lien de l'avortement avec la mortalité maternelle, comment est-ce que les programmes de mortalité maternelle peuvent inclure les femmes qui choisissent l'avortement pour ne pas être mère. Alors, je voulais vous demander comment est-ce qu'il faut... est-ce qu'il y a une manière de créer des liens entre le discours de droit et le discours de la médecine et la santé publique pour inclure les autres identités des femmes.
En tout cas, j'ai été encore intéressée par toutes ces interventions de ce matin et qui nous ont rappelé une certaine continuité dans la problématique sur cette question de mortalité maternelle en faisant le lien entre droit, connaissance et action. À ce titre, j'ai particulièrement été intéressée par l'intervention de Madame So. Et si j'ai bien compris votre propos, d'abord, j'ai cru comprendre que vous êtes sociologue, madame. Et j'ai compris à travers votre propos qu'il y avait en tout cas une dimension revendication des droits qui apparaissait clairement, une question en termes d'apport de la connaissance des sciences sociales. Alors, vous avez dit que vos propos, votre slogan « maire quand je peux, quand je veux, si je veux » pouvait choquer certains. Moi, ça ne m'a pas choqué. Je trouvais plutôt que ça pouvait paraître comme un truisme de dire cela dans des contextes auxquels vous vous référez, auxquels je me réfère aussi. Et vous avez aussi titillé un tout petit peu un type d'approche anthropologique, je crois, par rapport à l'identité culturelle. Or, vous-même, en commençant votre propos, vous avez introduit votre propos par un référent d'ordre culturel, si je peux dire ainsi. Et vous avez, à maintes reprises, rappelé un certain nombre d'aspects, de dimensions, qu'on pourrait relier de façon dynamique et qui posent la question, ces questions, en tout cas en termes de connaissances, de façon dynamique. Je pense que dans cette salle, nous sommes à peu près d'accord là-dessus. Et à cela, quand vous avez rappelé cet exemple de vos étudiants qui rappellent, qui vous interrogent, qui vous sortent des jugements de valeur sur le pourquoi des femmes qui font avorter, vous avez donné le justificatif. Oui, les hommes aussi avortent. Je suppose que dans la suite de vos échanges avec eux, vous les renvoyez à d'autres types de propos ou de considérations plus systématiques sur ces questions d'avortement, parce que répondre de cette manière, c'est juste déplacer la chose dans un autre point de vue. Et l'autre point sur la question du droit, plaqué comme ça, on peut dire, ben, si je mêle ce slogan « Mère, si je veux, quand je peux, si je veux », vous pouvez avoir ça, avoir des hôpitaux qui fonctionnent. Et puis, bon, et finalement, la question, c'est qui sont ces femmes qui meurent? Et si on regarde de près, en termes de droit, on a beau le revendiquer, finalement, ce sont ces femmes qui sont silencieuses. Silencieuses. Parce que, bon, tout ce que vous avez rappelé, je ne vais pas revenir là-dessus, font qu'elles sont silencieuses. Donc, finalement, on peut se retrouver dans un adage courant, familier, qui dit « on ne peut pas raser la tête de quelqu'un qui est absent ». Donc, elles n'ont pas... Elles sont silencieuses, ces femmes-là, mais comment faire pour qu'elles soient autonomes? Et cela me m'amène à la question ou une remarque de M. Luc de Bernis tout à l'heure. Excusez-moi, moi je me suis sentie interpellée un tout petit peu et j'aime pas trop tourner autour du pot. Et moi, quand je rapporte une expérience de recherche, je ne me vois pas du tout dans un terme, dans une dimension, une posture d'action. Je ne donne pas des leçons, des recettes à des collègues d'autres disciplines pour dire voilà, vous devez faire ça, ça marche, ça ne marche pas. Moi, je suis juste en train d'appliquer, de travailler avec un instrument. Peut-être c'est les propos qui sont inappropriés, d'organiser des focus group et d'associer ou de tarder, en tout cas, dans l'explication de pourquoi j'organise ces focus group. Il est loin de moi, en tout cas, l'idée de dire je donne la recette de ça marche, ça marche pas à quelqu'un. Et pour Dagobi, à sa question, son propos sur la réceptivité et l'interprétation des messages d'éducation, je pense que oui, tu as beaucoup développé la question de qui réceptionne, quels sont les acteurs qui réceptionnent, mais moi j'en attendais plus sur le processus d'acceptabilité des messages. Prenez par exemple ces messages qui renvoient à l'acceptation du dépistage du VIH par les femmes dans les formations sanitaires au cours des consultations prénatales, et vous verrez que la chose peut paraître beaucoup plus complexe que cela. Voilà, merci.
Merci Fatou. La parole à professeur Traoré.
Merci Madame la Présidente de m'avoir donné la parole. Je vais d'abord remercier tous les intervenants d'aujourd'hui pour leur présentation très très intéressante. Et je crois que leurs propos rejoignent ceux des anthropologues. Cela veut dire quoi? Que en tant que secrétaire général de la SAGO, je vais intervenir en tant que gynécologue-obstétricien et en tant que société civile. Pour dire que depuis que la SAGO a été créée en 88, tous les ans nous parlons de mortalité, tous les deux ans au Congrès nous parlons de mortalité maternelle, mais vous avez constaté que nous n'avons jamais pu réduire suffisamment cette mortalité maternelle. Parce que nous, en tant que médecins, gynécologues, sages-femmes et autres, nous parlons de l'aspect soins obstétricaux et néonataux d'urgence, l'aspect au niveau des centres de santé, des structures sanitaires. Or, ces femmes ne viennent pas très tôt. Quand elles viennent en retard et nous les agissons en urgence. On agit en pompier. Je suis convaincu que le problème de fond, c'est au niveau de l'émancipation de la femme. Je le dis, Fatou vient de le dire. On ne peut pas, en Bambara, on dit « Kunte di Kundiriko ». On ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Ce n'est pas possible. On ne peut pas réduire la mortalité maternelle en dehors de la femme elle-même. Et cette solution passe par son émancipation, son accès à l'économie. Il faut qu'elle puisse se souvenir à elle-même. Tant que la femme, la liberté commence par là d'abord. Il faut qu'elle puisse se souvenir au plan économique, qu'elle ait accès à l'éducation, qu'elle puisse disposer de son corps. Fatou l'a dit aujourd'hui. C'est fondamental. Et c'est des problèmes de fond sur lesquels nous ne pouvons pas agir. C'est un problème de fond. Il faut que la femme soit émancipée. Nous l'avons vu en Tunisie, nous l'avons vu au Canada, nous l'avons vu partout. Chaque fois que la femme a été libérée de l'homme, la femme s'est sentie mieux. Et on ne peut pas réduire la mortalité maternelle tant que la femme ne dispose pas d'elle-même, n'ait pas son argent, n'ait pas son boulot, son travail, qu'elle puisse aller aux consultations, prendre la contraception sans son mari. Si cela n'est pas fait, on reviendra ici tous les jours pour parler de mortalité maternelle. On ne la verra pas baisser. Ça, c'est important. La solution que je propose, c'est d'abord le lobbying. On ne fait pas suffisamment de lobbying au niveau des politiques. Chaque fois que le problème dans nos pays, en tout cas africains, a été pris en charge par le président de la République ou par son épouse, le problème a été réglé. Et ça passe par une organisation de la société civile. La SAGO fait partie de la société civile et la société civile et les partenaires au développement pour agir sur ces gens-là, pour qu'ils puissent prendre la mortalité maternelle à bras le corps. Je suis convaincu que chaque fois qu'une femme mourait en couche, si son conjoint aussi mourait, le problème serait résolu depuis très longtemps. L'homme est égoïste dans sa nature. Parce que nous, on ne meurt pas qu'on laisse les femmes mourir. C'est un problème de droits humains. De droits humains, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire. Merci.
Merci beaucoup, Traoré. Dr Fox, s'il vous plaît.
Je ne suis ni socio-anthropologue ni gynécologue obstétricien, mais je veux dire des choses donc simples. D'une part, il y a beaucoup de rapports et j'étais très heureux aussi d'entendre toutes les communications donc pendant ces journées. Il faudrait qu'on puisse peut-être les partager et qu'ils soient donc mis à disposition de tous. Ils sont à disposition, certes, mais on ne les connaît pas toujours. Et l'ensemble des projets aussi, il faudrait donc les partager pour les mutualiser et les renforcer. Deuxième point, on a bien montré, on a bien vu ce matin que les actions doivent se faire à tous les niveaux. Certes, au niveau de la formation des formateurs, donc des étudiants en médecine, de tous les professionnels de santé. Mais on avait évoqué également l'éducation pour la santé. Et là aussi, on peut avoir certainement des actions à mettre en place à tous les niveaux et aller plus haut. Je ne vais pas faire de féminisme là, mais l'alphabétisation de tous et surtout de toutes. Donc je crois des actions à tous les niveaux. Et je voudrais signaler qu'il y a un projet qui est présenté aujourd'hui à l'ensemble des ambassadeurs d'Afrique à Paris. Donc sur la formation en Afrique, il y a une délégation interministérielle donc pour l'enseignement du primaire, du secondaire. Et là, avec l'éducation pour la santé, on pourrait certainement avoir une action plus en amont et parler de tous ces problèmes. Je crois que c'est important de le savoir et peut-être d'y participer. Merci.
Merci beaucoup. Monsieur le doyen, vous avez la parole.
Merci, madame. J'ai deux questions. La première s'adresse à madame Fatou Sow. J'ai bien aimé l'approche, hein, le postulat ou, si on veut dire, l'hypothèse de dire libérer la femme sur le plan sexuel, c'est permettre de lutter contre la mortalité maternelle. C'est bien argumenté. Je pense que ça peut donner des résultats. Mais la question qui se pose, c'est l'approche pratique. Comment la libérer? Si je prends deux niveaux sociaux différents, la fille, la femme qui est au village, pour laquelle le partenaire sexuel est pratiquement choisi, désigné. Désigné par l'entourage, désigné par la famille, désigné par le groupe. Comment lui parler de libérer une sexualité? C'est-à-dire, comme vous dites, faire avec qui elle veut, quand elle veut, c'est difficile quand, depuis son enfance, une stratégie est mise en route et qu'elle est encadrée. Elle est pratiquement emprisonnée pour sa sexualité. Comment l'y libérer? Quelle stratégie lui parler? Le professeur Traoré a émis des hypothèses, mais le problème est complexe. Si on prend l'autre niveau, on prend la fille qui a étudié, qui est venue à l'université. Elle aussi, malgré qu'elle a étudié, malgré qu'elle est presque libre économiquement, on se rend compte qu'elle n'est pas libre sur le plan sexuel. Si je prends un exemple, les étudiantes que nous encadrons en fin de cycle en médecine, entre choisir de soutenir leur thèse en fin d'année et choisir de se marier, elles vont choisir de se marier. Parce qu'elles vont dire, si je soutiens la thèse que je ne suis pas marié, je ne signifie rien dans cette société. Donc, elle n'est pas libre. Parce qu'on est tenté de nous dire l'éducation suffit. Mais moi, je ne suis pas convaincu que c'est l'éducation qui suffit. Que si on fait une enquête à l'université, on se rend compte que ce n'est pas seulement l'éducation classique, du moins l'éducation universitaire ou collégienne. Comment vous voyez-vous l'approche pour libérer ces femmes? La deuxième question rapide s'adresse à Mme Colli. Très intéressant de faire l'enseignement, l'appropriation des connaissances anthropologiques au niveau des structures de formation en santé. C'est très intéressant. Cependant, une réflexion doit être menée parce que là aussi, les gens sont tentés de dire « c'est déjà fait, on enseigne ». Mais qu'est-ce qui est enseigné? Certains n'enseignent pas, mais d'autres vont répondre vite « qu'est-ce qui est enseigné ?». Mais nous, quand on regarde ce qui est enseigné, on se dit que quand même, il y a une réflexion qu'il faut mener actuellement. Quel programme enseigner d'abord? Quel programme pour former le médecin qui a le profil de compétences actuelles sur nos terrains africains? Je pense que ce programme ne doit pas être fermé. C'est-à-dire, il ne faut pas dire parce qu'on est en Afrique, on va enseigner les traditions ou autres. Non, c'est un médecin ouvert. C'est un médecin qui utilise ce qu'on appelle médecine moderne. Donc, il ne faut pas l'ancrer seulement dans des connaissances traditionnelles. Non, il faut qu'il puisse observer et pour qu'il accepte d'être audité, parce que ça aussi, ce n'est pas encore accepté, audité sur le plan de l'anthropologie, par exemple. Et après avoir choisi les programmes, évidemment, on voit qui enseigne. Et qui enseigne aussi, ce n'est pas que, par exemple, c'est parce que lui, il connaît les traditions qu'il doit enseigner. Non, quelqu'un d'autre peut enseigner. Quelqu'un peut n'avoir pas vécu longtemps en Afrique, mais il a tellement observé qu'il peut parfaitement enseigner une bonne partie de l'anthropologie dans nos facultés, dans nos institutions. Voilà les deux remarques que je voulais apporter et avoir quelques éléments de réponse. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le doyen. Madame Djeneba et Diallo.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur celui qui a traité de l'éducation pour la santé. J'ai bien noté la notion d'adoptant, de non-adoptant, et également la troisième catégorie. Seulement, on a des problèmes parfois sérieux sur le terrain à convaincre les communautés, les groupes par nos messages, parce que nous avons parfois des catégories de femmes, surtout de femmes instruites ou alors qui ont voyagé beaucoup, parfois même d'un niveau très élevé d'instruction. Et ces femmes sont écoutées lorsque elles sont dans les groupes. Et le plus souvent, c'est des femmes qui pensent connaître des choses, alors qu'elles ont souvent des informations erronées. Et donc, elles font facilement circuler des rumeurs dans la communauté. Et comme elles sont influentes, elles sont écoutées et les autres groupes, en tout cas, s'en tiennent à ce qu'elles disent. Et ce qui ne facilite pas la tâche de nos agents de santé sur le terrain, surtout, comme vous l'avez dit, il y a des agents qui ne sont pas suffisamment bien formés dans le domaine de la communication, etc. Donc, ma question est de savoir, ma question rejoint à peu près le dernier point de Fatou. Bon, quelle approche d'éducation pour ce genre de groupe, de communauté, étant donné que au sein de la communauté même, il y a des gens qui vont contre ce que vous faites passer comme message à l'ensemble de la communauté. L'exemple que j'ai, j'étais dans un groupe une fois et une femme racontait que la sage-femme qui l'a accouchée était incompétente parce que la sage-femme lui a fait une épisiotomie alors qu'elle, elle sentait qu'elle pouvait accoucher normalement. Elle sentait que l'enfant pouvait passer. Alors, étant sage-femme, je ne pouvais pas intervenir sur le champ et contredire ce qu'elle a dit. Donc, je l'ai tenue de côté et je lui ai dit, des informations de ce genre, c'est dangereux de le faire passer. Moi, je suis sage-femme. Une épisiotomie, ça se fait quand on voit des signes. Celle qui est sur la table, elle ne peut pas le sentir. C'est celle qui est en face qui a des signes qui lui disent que si elle ne fait pas, il va y avoir une déchirure. Donc, il faut faire très attention avec ce genre de message. Et des femmes comme celle-là, elles sont nombreuses. Donc ma question est de savoir, bon, que faire dans des groupes de ce genre, parce que on a réellement des difficultés sur le terrain.
Merci, merci. Madame Diallo et Monsieur Koulibaly, vous avez la parole.
Merci Madame la Présidente. Moi, je m'associe à tous les autres qui ont fait de bonnes remarques sur les présentations et je remercie leurs auteurs. C'est intéressant, on a compris des choses, mais mes questions s'adressent particulièrement à M. Dagobi et à Ismaël Famanta. Pour M. Dagobi, je pense que vous avez catégorisé, en tout cas, ceux qui reçoivent les propositions de programme en adoptant, vous avez parlé de rejet, et puis après, il y a le troisième élément, c'était c'était quoi encore? Adoptant, rejet, et puis innovant, c'est ça. Vous avez catégorisé comme ça, mais vous l'avez fait en fonction du capital culturel, le niveau d'éducation. Je sais que c'est important. Quand on prend, par exemple, les images, Albert parlait de ça, on montre les images aux femmes. Je pense que les femmes instruites comprennent mieux les affiches sur la planification familiale, par exemple. Je prends l'exemple de la planification familiale, j'ai travaillé sur ça. Quand vous montrez les affiches sur la planification familiale au niveau des centres de santé aux femmes qui ont un capital culturel, elles comprennent très bien. Mais celles qui ne sont pas allées à l'école, c'est beaucoup plus difficile. Quand on leur demande qu'est-ce que ça signifie, elles se mettent à décrire les éléments un par un. Voilà, on ne fait pas un regroupement comme ça. À ce niveau-là, le capital culturel, ça peut jouer. Mais quand vous catégorisez en adoptant, et puis rejet, et puis innovant, moi je pense qu'il faut insister sur la contextualisation, c'est important. Parce que les acteurs sociaux, c'est des parcours de vie, c'est des contextes multiples, etc., etc. Quelqu'un qui est adoptant peut être innovant. Donc, il y a des migrations dans chaque catégorie. Je prends un exemple simple. Adoptant, il peut avoir une fille qui a adopté la planification familiale et qui est prête à l'utiliser, qui l'utilise peut-être. Mais elle ne va pas utiliser la pilule, elle ne va pas utiliser tout ce que le programme propose, mais elle va utiliser son propre moyen de planification familiale. Moi, j'ai remarqué ça dans mes recherches. Elle va utiliser des comprimés, en tout cas des produits pharmaceutiques qui ne sont pas destinés initialement à la planification familiale, pour faire la planification familiale. Donc, d'adoptant, elle devient innovante. Je pense qu'il faut insister sur ces aspects-là. Les gens, en fonction des contextes, on migre, on change. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et non durcir le trait pour catégoriser en adoptant, rejet et puis innovant. Pour ce qui concerne le code de la famille, ça c'est la question qui s'adresse à Famanta. Les gens ont parlé de, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un qui est absent. C'est bien dit. Donc, à propos du code de la famille, quand il y a eu toutes ces manifestations-là, toutes ces tensions sociales, est-ce que les femmes se sont exprimées? Voilà. Merci.
Merci, Monsieur Koulibaly. Nous allons prendre la toute dernière question qui vient de notre jeune collègue étudiant qui a suivi des travaux depuis le début, très assidûment.
Ok, merci Madame la Présidente. Je me joins aux autres pour féliciter les présentateurs. Moi, je suis CS en médecine légale, expertise. Je suis un peu peut-être resté sur ma faim parce que quelque part, depuis 3-4 jours, on parle de décès maternel. Et on a peut-être parlé de l'aspect un peu juridique, mais qu'est-ce qui vient après tous ces décès? D'autant plus que ailleurs, peut-être en Europe ou bien en Amérique, quand les femmes décèdent dans les structures hospitalières, on fait, comment on appelle, l'expertise pour savoir réellement de quoi elles sont mortes. Et malheureusement, chez nous, comme on l'a dit pendant tout ce temps, on fait les audits, l'aspect verbal jusqu'à aller dans les villages, mais la restitution, ne serait-ce que nous, en tant que techniciens, soyons franchement conscients de ce que nous assumons comme cause, pas entière, mais quelle peut être notre petite faute dans nos services fermés, hein, pour que ça ne se répète pas, au moins qu'à notre niveau, qu'on puisse agir sur nos habitudes. On l'a vu à travers les différentes présentations. Nous ne sommes pas à 100% blancs comme neige, comme on le dit, avant que les autres ne viennent ouvrir nos portes et savoir réellement de quoi il s'agit dans nos structures, avant d'aller remettre la responsabilité de l'insuffisance des moyens de transport et autres qui s'ensuit. Les femmes qui viennent juste pour mourir chez nous, il faudrait qu'on le restitue aux autorités qui ne font pas de bonnes routes, qui ne fournissent pas d'ambulance ou bien le chef de village ou autre chose, qui ont des insuffisances dans leur cotisation au plan transport et tout ce qui s'ensuit avant l'accès, même au premier niveau, avant même qu'ils n'arrivent au niveau, comment on appelle, de prise en charge des centres de santé de référence, encore moins à l'hôpital. Je pense qu'il y a quand même une petite dose de responsabilité. Comme on l'a vu à travers certaines présentations, où les femmes meurent dans des CHU, je ne sais pas, c'est quand même triste. Il faudrait que les gens ouvrent nos portes pour nous dire, voilà, vous tuez les femmes. Il faut qu'on les fasse, nous, techniciens, à temps. Et savoir refermer la porte avant que les autres ne viennent l'ouvrir. Voilà, c'est ma petite contribution et je voulais le dire. Merci.
Merci beaucoup pour cette interpellation d'autocritique. À savoir comment on fait l'aspect médico-légal une réalité. Nous avons requis toutes les questions et maintenant nous allons permettre à notre conférencier de répondre aux différentes questions posées. Merci. Je pense que peut-être nous allons commencer à tour de rôle de présentation. Donc, monsieur, vous avez la parole.
Merci, Madame la Présidente. Merci pour toutes les contributions et les questions. Et pour les contributions, j'ai retenu que finalement, et au-delà de zone de questions de détermination sociale. Et il y a d'autres problèmes tout aussi importants comme celle de l'identité ou de la communication dans un contexte d'identité plurielle. Et celle de l'utilisation des supports et les influences qu'elles peuvent avoir sur la réception des messages, sur les questions de traduction, de sémiologie et sur les questions de l'interaction entre les communicateurs, mais également leur public. Et ce sont les contributions du professeur. Je vous en remercie. Alors, pour les questions, je commence par celle de Monsieur Koulibaly. Et je suis tout à fait d'accord que ma typologie est assez schématique et durcie et qu'il faut insister sur la question de la réversibilité des postures. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut passer d'un extrême à l'autre en fonction des opportunités que les acteurs sont après tout des êtres opportunistes. Je suis tout à fait d'accord. Pour la question de Fatou, c'est vrai que qui adopte c'est un premier niveau, peut-être qu'il est plus intéressant de montrer comment on adopte, c'est quoi le processus d'adoption et des messages, selon quel processus les acteurs sociaux acceptent ou refusent les messages, et également selon quel processus ils les recomposent. Tout à fait d'accord. À ce niveau, je pense qu'il y a, il y a des modèles théoriques, et notamment celui de Rogers dans la description des processus de diffusion des innovations, et dans lequel il décrit grosso modo quatre ou cinq étapes. Et je ne les ai pas toutes en tête, mais il estime que pour adopter une innovation, et l'acteur passe d'abord par un stade d'information. Il a l'information, comment il l'a, et qu'est-ce qu'il en tire. Et deuxièmement, comment il prend, à quel niveau, à partir de quel seuil il prend la décision. Comment il fait les arbitrages entre les avantages d'une innovation et la décision de l'adopter ou de la rejeter, et qui conditionne un peu quel type de moyens il doit mobiliser pour acquérir cette innovation. Et puis, après le stade de la décision, il y a le stade de la mise en œuvre, proprement dit, de l'adoption. Et puis, enfin, il y a celui de la confirmation dans lequel on s'installe dans une attitude. Alors, je pense que tout dépend des enjeux. Tout dépend des enjeux en présence. Je vous donne un exemple. Et quand on prend un message, là, il faut consommer de l'eau potable. Et pour les populations riveraines que j'ai étudiées, par exemple, en temps normal, les riveraines du fleuve Niger, en temps normal, bon, il y a des forages, l'eau est payante, mais de manière générale, les gens vont puiser l'eau au fleuve et la consomment assez souvent telle qu'elle. OK. Bon. Mais quand on dit il y a le choléra, on s'abstient, on fait le sacrifice, on va, on paye l'eau. Et donc, on voit qu'ici, l'enjeu est d'éviter le choléra, modifie le comportement et sans que l'on passe nécessairement par un stade de décision, de mise en œuvre jusqu'à la confirmation. Et donc la réponse ici, c'est que tout dépend des enjeux. Pour la question de Mme Djenaba, je pense que vous faites allusion au processus d'inter-influence. Cette question a été étudiée par un sociologue américain qu'on appelle Katz Eliou dans ce qu'il appelle le « two-stop flow of communication », dans lequel les gens, captent l'information et ils la véhiculent ensuite dans leur entourage en fonction, évidemment, des influences qu'ils ont sur les gens. Maintenant, vous, le cas que vous posez, il me semble que c'est assez différent, c'est assez complexe parce que vous posez un problème de communication. Ici, vous dites, c'est une parturiente et qui est assez informée. Et elle reçoit le message d'une sage-femme et qui apparemment ne l'est pas tout à fait par rapport à cette pratique. Donc on voit bien un décalage entre celui qui reçoit le message et celui qui le délivre, qui ne sont pas au même niveau d'information. Mais je pense que d'une manière générale, pour éviter ce genre de problème, quand vous devez faire une campagne sur un message précis, c'est un truc qui dit qu'il faut faire une étude du milieu pour voir c'est quoi les normes de votre milieu, c'est qui les personnes influentes et comment vous pouvez éventuellement les avoir avec vous plutôt que contre vous. Je pense que il n'y a pas de recette à ce niveau, quoi.
Merci beaucoup. Je pense que nous sommes tous conscients de la complexité, la profondeur et la largesse du sujet. Donc, je pense que nous allons continuer des discussions même après ces sessions. Donc, si finalement les réponses pourraient être beaucoup plus précises, et aussi en se disant que nous allons aussi avoir des travaux de groupe et les discussions continueront. Merci. Donc, Madame Sou, s'il vous plaît.
Je vais essayer de répondre de manière très concise à plusieurs questions qui m'ont été posées. Celles auxquelles je n'aurais pas répondu, soit parce que je les ai oubliées, parce que je ne sais pas y répondre, je ne sais pas y répondre de manière très courte. Mais deux ou trois choses. D'abord, je crois que sur l'action et l'observation des chercheurs, le rôle des anthropologues, je ne veux pas ouvrir ici le débat de l'anthropologie et de la sociologie. Qui fait l'anthropologie? Qui fait de la sociologie? À quel moment est-ce qu'on est anthropologue? Dans quel contexte? Est-ce qu'on est anthropologue chez les autres et pas chez soi? C'est un débat dans lequel je ne veux pas intervenir, parce que ça pourrait être l'objet d'un colloque de plusieurs années, pas seulement de plusieurs jours. Mais je veux simplement dire que là, quand on est, quelle que soit la culture à laquelle on participe, quand on est dans un milieu sur lequel on travaille, on travaille et on agit en même temps. Donc il est extrêmement difficile de faire la distinction entre je prends seulement des connaissances mais je n'agis pas, ou bien est-ce que j'agis sans avoir de connaissances. Je crois que ce que le docteur de Bernis disait tout à l'heure à la suite de plusieurs de nos présentations font... Est-ce que l'anthropologue ou le sociologue a la vérité? Qui a la vérité? Est-ce que le médecin a la vérité? Est-ce que la patiente a la vérité? Je crois que la vérité, c'est un ensemble d'informations recueillies, d'analyses faites, d'actions à prendre. Je crois que c'est extrêmement complexe et on n'a pas le temps, malheureusement, d'en discuter plus longuement ici. Mais je crois que c'est une question extrêmement importante. Je voudrais également à mon collègue Jaffré qui dit « Le corps de la femme est politique ». Vous avez entièrement raison, mais nous, les femmes, nous allons même plus loin, nous disons que le personnel est politique. Ça veut dire que le corps de la femme qui agit... qui est dans l'espace public comme dans l'espace privé, il est extrêmement politique. Et je donne un exemple. Je viens de passer plusieurs années là entre Paris et Londres où la question clé autour du corps de la femme, c'était le voile. Est-ce qu'on porte le voile ou est-ce qu'on ne porte pas? Est-ce qu'on porte le foulard? Est-ce qu'on porte la burqa? Est-ce qu'on peut conduire quand on n'a qu'une petite fente qui vous permet de voir? Est-ce que vous pouvez travailler dans une crèche en portant la burqa? Etc. C'est-à-dire qu'il y avait au milieu de ce débat le corps de la femme, le corps de la femme musulmane, et la question qui était posée, est-ce qu'on lui porte la burqa ou est-ce qu'on ne porte pas la burqa, le discours était essentiellement politique. Je crois qu'à aucun moment, les femmes qui portent le voile ou celles qui refusent de le porter n'ont eu un discours, disons, personnel sur mon corps est à moi ou pas. C'était un discours entièrement politique de communautés ou de personnes ou de pouvoirs qui se disputent l'espace politique et autour du corps de la femme sous le voile. Donc vous avez raison de dire que le corps est politique, mais je dirais plus loin, le personnel est politique. Tous les codes de la famille autour desquels on s'est disputé, sur le code de la famille au Mali, Alors, quelqu'un a demandé, est-ce que les femmes sont descendues dans la rue? Vous savez, descendre dans la rue, pour les femmes pour lutter contre le code de la famille, quand vous avez une masse d'hommes en face qui sont prêts, excusez-moi l'expression, à vous botter les fesses, si vous rouspétez, eh bien, vous ne descendez pas souvent dans la rue. Demandez aux femmes qui sont allées au meeting politique à Conakry ce qui leur est arrivé. Vous pouvez manifester dans les rues de Dakar pour le moment. Ça va, vous pouvez juste recevoir un coup de bâton du policier, mais ça ne va pas plus loin. Il y a des espaces où vous ne descendez pas dans la rue, où les hommes d'ailleurs ne descendent pas non plus dans la rue, sauf quand ils sont en position de force. Donc là, c'est un débat. Alors, Souria m'a demandé sur la mortalité maternelle, et autour de la notion de santé. En fait, ce qui est en question, c'est la santé des femmes. Avant d'être mère, nous sommes femmes. C'est parce que nous sommes femmes, nous avons un utérus et des ovaires que nous pouvons devenir mères. Or, toute la question que les femmes ont posée autour de la santé, et même le contrôle de la santé, le contrôle de leur sexualité, c'est d'abord le contrôle en tant que femme de ce que peut devenir une maternité. Sinon, dans les centres les plus grands centres de santé qui ont été mis à la disposition des femmes, c'est les centres de protection maternelle et infantile. Avant que vous n'ayez un enfant, vous voyez le médecin quand vous êtes nourrisson. Jusqu'à l'âge de 5 ans, disons, les enfants sont vaccinés, donc ils vont au centre médical. Mais entre l'âge de 5 ans et le moment où vous faites un enfant, il y a 15 à 20 ans qui se passent, où normalement vous ne voyez même pas de médecin, parce qu'il n'y a pas de centre pour ça. Bon, il y a un dispensaire, mais il est lointain. Ce qu'on s'occupe, c'est de cette santé maternelle. Et une fois que vous avez fini de faire des enfants, c'est pratiquement terminé. Les femmes ménopausées ne vont pas à l'hôpital. J'ai eu tellement de femmes autour de moi qui sont mortes d'un cancer de l'utérus parce qu'elles avaient leurs règles. Et allez dire, quand vous avez 70 ans, allez dire à votre fille ou à un médecin, bon voilà, moi j'ai mes règles, vous ne le dites pas. Parce que ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Donc il y a tout un manque. Alors peut-être que les médecins qui sont là vont me dire que j'exagère, hein, mais là, vous avez raison de poser, il y a tout un problème autour de la santé maternelle. Et alors l'avortement est vraiment comme un espace clandestin dans les structures hospitalières. De temps en temps, j'ai eu des collègues médecins qui ont fait des travaux autour de l'avortement, mais dans un hôpital régulier dakarois, vous pouvez pas aller avoir un avortement. Les médecins vont vous le faire, mais ils vont vous le faire ailleurs. Donc, mais c'est tout le langage autour des femmes, autour du corps des femmes. Même la notion de planification familiale. C'est quoi la planification familiale? La planification familiale, c'est comment réduire ou organiser le nombre d'enfants au sein de la famille. Alors que ce qui est en jeu, en fait, c'est la planification des naissances. Est-ce qu'une femme mariée peut ou pas ne pas avoir d'enfants quand elle prend une contraception? Elle n'est pas en train de planifier sa famille. Même là, le langage est un langage biaisé. Donc vous avez raison qu'il y a des questions à poser. Madame Camara m'a demandé sur mes revendications, sur le droit et sur l'identité culturelle. Nous avons tous des identités culturelles. Moi, mon identité culturelle, elle est multiple. Hein. Je suis africaine, je suis sénégalaise, je suis musulmane, je suis sociologue, je suis féministe, je suis... Tout ça, c'est moi. Et tout ça, c'est ancré dans une culture qui est la mienne, mais que je transforme, que j'essaie de penser différemment. Parce qu'il y a des problèmes qui sont posés, il faut bien donner des réponses, au moins des analyses à ces questions. C'est pas faire de l'anthropologie, hein, c'est vivre dans un contexte. Moi, je vis dans mon contexte, et mon contexte, pour m'y adapter, pour y survivre et pour y exercer, pour m'épanouir, je suis bien obligée de l'analyser en termes culturels, mais comme tout le monde fait. Tout le monde analyse son contexte en termes culturels. Alors, à propos de mes étudiants, moi, ce que je veux montrer à mes étudiants, quand on parlait de... Il est très difficile avec des étudiants sénégalais et sénégalaises de parler de sexualité, de sexe, de... Bon, les filles, elles se mettent sous leur pagne, mais elles baissent un peu la tête, et les garçons, un peu plus arrogants, me regardent comme disant, oui, mais alors vous parlez de la sexualité, et puis quoi. Et au fond, quand on parle de la grossesse, ou de la... ils se sentent totalement étrangers. C'est ça que j'avais avec mes étudiants. C'est-à-dire que la sexualité, bon, ça va. Mais dès qu'on commence à parler de la maternité,
Ils voulaient bien contrôler le corps des femmes à condition de ne pas savoir ce qui se passe dedans. Et quand je leur disais, mais vous avortez, vous, toutes les fois que vous ne reconnaissez pas un enfant, ce que je voulais, c'est leur faire réfléchir sur la responsabilité qu'il y a. Parce qu'après, je leur disais, bon, mais si vous avez porté un préservatif, hein, vous n'en seriez peut-être pas là. Par exemple. Donc il y a un certain nombre de... Au lieu de donner des jugements lapidaires sur les enfants, la maternité, tout ça, c'est des choses de femmes, nous, ça ne nous regarde pas, c'est en fait leur faire prendre conscience que la reproduction, ça se fait à deux, et que qu'il était peut-être important, eux aussi, qu'ils sachent ce qu'est un corps de femme, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quand ils interviennent dans un corps de femme, quels sont les résultats qui sont là. Alors vous dites, ces femmes, elles sont silencieuses. Mais elles ne sont pas absentes, vous avez raison, elles ne sont pas absentes. Mais en même temps, il ne faut pas penser que toutes les femmes sont silencieuses, que toutes les femmes se tairent sous le poids. Non, je crois qu'il y a beaucoup de... Bon, ça m'est facile de venir ici, de théoriser, de faire un discours brillant, etc. Mais en même temps, c'est un discours de choses que je vis. Après tout, je suis une femme, j'ai eu des enfants, etc. Je vis dans une société qui contrôle et mes gestes et mon langage. Bon, avec l'âge, on prend de l'assurance, donc on peut se permettre de dire plein de choses que j'aurais pas dit il y a 30 ans. Mais parce que je me souviens, la première fois que j'ai été invitée à la... Je vais terminer rapidement. J'ai été invitée à la faculté de médecine, c'était en 1994. Le professeur Amadou Sow, Mohamed Lamine Sow, faisait une conférence sur la mortalité maternelle. Moi, je me souviens, je suis arrivée même en retard, hein, parce qu'on devait commencer, je pensais commencer à 15h, à 14h. Bon, je suis arrivée à 15h, ne sachant pas. Il y avait vraiment un enfant plein comme ça. Et quand j'ai dit... Alors, à l'époque, le discours sur un enfant, quand je veux, quand je peux, il n'était pas encore là, parce que ça se construit, ces discours-là. Mais j'avais un discours sur la reproduction forcée des femmes, le fait que la maternité, ce n'était pas forcément un désir, qu'on était obligé. Mais j'assure qu'aucun médecin ne m'a posé de question. Il n'y a que le professeur Correa qui était assez à côté de moi qui m'a dit, comme il me connaissait depuis longtemps, il m'a dit, mais tu as raison, hein, mais tu nous as dit des choses, mais c'est vrai, moi qui suis médecin, qui suis gynécologue, voilà les femmes que je reçois. Mais on a fait des progrès, parce qu'aujourd'hui, les médecins dans la salle posent des questions et réagissent, donc on peut continuer à les agresser encore plus pour les faire réfléchir sur ce qu'ils disent. Et là, je vais terminer avec le doyen sur le choix des femmes, sur l'enfant. Vous savez, quand je dis un enfant, quand je peux, si je veux, ça choque. Bon, maintenant, après, ça ne choquera plus. Hein, mais ça choque beaucoup de gens. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ça veut dire qu'on peut s'envoyer en l'air avec qui on veut, quand on veut. Non. Avoir un rapport sexuel avec qui je veux, c'est qu'on peut décider de prendre, pas le cousin A, mais de prendre le cousin B, par exemple. On reprend le garçon qui habite au coin de la rue. Mais on a décidé, c'est un choix. Il est évident que dans nos familles, il y a toujours cette pression du mariage, où la famille rêve d'un genre idéal. Mais même ça s'envole. Vous savez, dans les villages, les femmes et les jeunes hommes qui sont là se plaignent en disant que les femmes veulent de plus en plus épouser des émigrés. L'émigré, ce n'est pas le cousin d'à côté, mais c'est celui qui est allé en Italie, qui est allé aux États-Unis, qui est allé en Espagne, qui revient avec un nouveau langage, il a un peu d'argent, il peut donner. Et les femmes sont attirées par ça. Et aujourd'hui, on se retrouve, vous avez demandé à ma collègue Fatou Sarr, qui fait des enquêtes sur les femmes et la migration, où des mères vendent leurs bijoux, donnent à leurs fils pour qu'ils aillent grimper sur ces bateaux-là, dans lesquels ils se noient dans la Méditerranée. C'est-à-dire que même là, les schémas changent. Et vraiment, monsieur le doyen, si vos étudiantes ne veulent pas faire leur thèse parce qu'elles préfèrent se marier, c'est qu'il y a eu un problème avec les études de médecine et la thèse. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ces femmes refusent de faire la thèse et préfèrent aller se marier? Là, il y a vraiment une question que je vous renvoie.
Merci beaucoup, madame. Maintenant, on va voir monsieur Fomta. Voilà, et puis après, ce sera madame.
Donc, moi, il y a d'abord des contributions. Il y a le professeur Traoré. Bon, je considère son intervention comme une contribution dans la mesure où il pose le problème de la nécessité de résolution du problème à partir de l'amont, parce qu'il pense qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte en amont avant la phase qu'on dirait la mort maternelle. Donc, c'est le même sens que l'intervention du docteur Digo aussi, qui parle d'un problème de développement quand il parle de la nécessité de réaliser des routes, parce que tous ces acteurs-là contribuent d'une manière ou d'une autre à la hausse de la mortalité maternelle. Et quant à l'intervention de Yannick Jaffré, ça dénote le caractère complexe du problème. D'un côté, il y a la nécessité de ce courage politique-là pour la prise en compte des décisions courageuses, décisions politiques. Il y a de l'autre la nécessité de prendre en compte les considérations d'ordre religieux pour l'élaboration de toute stratégie de lutte en faveur de la femme. Donc, je considère cela aussi comme une contribution. Quant à la dernière question de M. Abdelhamane Koulibaly par rapport à que disent les femmes par rapport à tout ça au Mali, bon, les femmes, je peux dire que les femmes sont timides pour l'instant, bon, ce qui n'est pas sans raison, parce que je vous ai parlé de l'incident qu'il y a eu entre les prêcheurs là et pratiquement tous les gouvernements. Lorsque ce prêcheur-là a sorti une cassette dans laquelle il insulte les présidents de la République, les premiers ministres, les présidents de l'Assemblée nationale, les deux femmes députées. Donc c'était un signal fort. Si après tout ça, ce même prêcheur a été reçu à bras ouverts et de manière solennelle par le même président de la République et puis les présidents de l'Assemblée nationale, bon, je crois que ça a mis un peu d'eau dans les vins de ces femmes-là. Donc, beaucoup ont pris peur. Je me souviens que, je ne sais pas si les deux événements sont liés, mais quelques semaines après la diffusion de cette cassette-là, une des femmes députées qui était présidente d'une section du deuxième parti le plus important du Mali, elle avait démissionné de son poste de président de section. Je ne sais pas si les deux événements sont liés, mais en tout cas, c'est intervenu quelques semaines après. Tant l'écho de cette cassette-là était très fort. Ensuite, dernièrement, j'ai essayé de m'entretenir avec la présidente de la CAFO, la CAFO, c'est la coordination des associations et ONG féminines du Mali. C'est la plus grande association des femmes au Mali. Bon, j'ai pu avoir les points de vue de la présidente, mais je reconnais qu'au début, elle n'était pas tout à fait disposée à parler de ce thème-là. Elle a essayé toujours de me renvoyer sur d'autres organisations féminines. J'ai compris qu'il y avait un malaise qui était là. Donc, finalement, tout le monde a peur. Et elle m'a même fait savoir qu'elle a des inquiétudes, son association a des inquiétudes, en ce sens que dernièrement aussi, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille les avait invités pour un entretien et elles se sont rendues compte aussi que le ministère n'en savait pas davantage sur l'avenir du corps. Donc, on a l'impression que tout le monde a finalement peur et chacun laisse faire un peu. Donc, les femmes, je ne peux pas dire qu'elles sont maintenant au devant de la scène. C'est le même cas avec Aminata Dramane Traoré, qui est une activiste très connue au Mali. Mais j'ai suivi une émission des RFI à l'occasion du cinquantenaire du Mali. Elle était là. On traitait du thème de l'évolution de la femme malienne pendant ces cinquantenaires-là. J'avoue que même ces activistes-là avaient peur d'aborder les thèmes. Donc, c'est vous dire combien ces menaces et ces marches qui ont été organisées un peu partout ont laissé des séquelles. Donc, aujourd'hui, il y a un malaise visible qui est là, qui est très fort au niveau tant des femmes que de la société. Voilà, merci.
Merci, Madame Macaulay.
Donc, je vais répondre assez brièvement donc à la question de professeur Laminguet. Je voudrais revenir simplement sur la question de la formation pour bien repréciser que dans l'ensemble et la complexité des problèmes autour de la mortalité maternelle infantile, la formation n'est qu'une piste de rejet. C'est vraiment une piste, mais ça peut être une entrée dont on peut se saisir. Donc effectivement, si cette piste de la formation est retenue et si on réfléchit sur la question des étudiants en médecine, par exemple, c'est une question spécifique, on peut là avoir une opportunité qui dépasse la question des savoirs anthropologiques. Et je reprends, par exemple, tout le programme de sciences humaines. Il n'y a pas seulement la question des savoirs anthropologiques, mais c'est surtout pour réfléchir à un programme et à une cohérence. Et réfléchir à un programme et une cohérence, c'est se poser les bonnes questions. Ces bonnes questions, c'est quel médecin pour aujourd'hui et demain. Hein, et ça, ça me semble indispensable, parce que la formation médicale est tout de même très standardisée, mondialisée, et par rapport au contexte, eh bien, il faut tel type de médecin et pas tel autre pour répondre aux besoins des femmes et des enfants, par exemple. Donc c'est déjà à la question quel médecin pour demain qu'on va pouvoir savoir quelles compétences et quel savoir introduire. Hein. Alors il peut y avoir plusieurs pistes, mais simplement un dernier commentaire. Lorsque je vois un petit peu la manière dont sont transmises ce module de sciences humaines, bien souvent, dans les facultés de médecine du Nord, ce sont des savoirs qui coexistent, un peu de psycho, un peu d'histoire, un peu de sociaux, un peu d'anthropo. Il n'y a pas de cohérence ni de logique. Hein. Et cette logique, on l'a sur la manière, par exemple, de situer un étudiant en médecine dans son contexte, qui est un contexte mondialisé. C'est le situer dans le champ de la médecine dans lequel il va pratiquer, et c'est le situer par rapport au patient avec lequel il va travailler. Et lorsqu'on voit ça comme perspective, après, on peut introduire des contenus sur tout l'environnement socioculturel, mais aussi sur la relation et sur la psychologie qu'il faut, etc. Voilà un petit peu. Alors, ça demande évidemment beaucoup plus de réflexion que ces petites hypothèses qui sont... Voilà, ça fait l'objet de réflexion. C'est en cours, c'est en sensibilisation. Hein. Et je pense que, par exemple, l'atelier qui va être mis en place à Libreville sur cette question du médecin de demain et puis les compétences peut-être à mettre en place, ça va faire avancer un peu les choses. Alors, simplement aussi pour dire que la formation, ça peut être une entrée. Et puis, je parlais avec ma voisine pour voir est-ce qu'il y avait des avancées. Parce que parfois, on peut se dire, mais est-ce qu'on n'est pas dans une impasse? Et en fait, ma voisine me dit que tout de même, les avancées, les idées, le public changent. Et donc, il y a des choses qui bougent et peut-être il faut renforcer et augmenter l'impact de ce qui bouge. Voilà un petit peu mes réflexions de...
Merci beaucoup à tous pour les questions, les commentaires ainsi que les éléments de réponse. Et maintenant, je cède la place au président pour la conclusion de la séance et la suite des travaux. Merci.
Merci vraiment. Je voudrais remercier et féliciter tous les exposants vraiment qui ont alimenté cette session. Bien entendu, le titre même de la session, le thème principal, c'est vouloir et pouvoir. Quelles sont les dimensions sociopolitiques de l'action? Je crois qu'on a essayé en partie de répondre à cette thématique, mais les intervenants, en tout cas, nous ont fortement édifiés, que dans la salle aussi, le feedback reçu et les questions posées, parfois des contributions assez riches, ont été faites dans le sens justement de continuer à alimenter notre réflexion. Bien sûr, je pense que nous avons été interpellés, surtout par notre jeune confrère, par rapport à un appel à nos responsabilités. Parce qu'il s'agit ici, comme l'a si bien rappelé et bien rappelé Madame Sow, nous avons une responsabilité collective et individuelle en tant que prestataire de services, en tant que chercheur, pour que la recherche soit utile, que ce soit la recherche anthropologique, il faut que ça soit adapté à l'homme. Et ici, l'homme, ce n'est pas n'importe qui, c'est la femme. C'est la femme mère, la femme qui est en danger de mort. Donc, je crois que nous allons continuer parce que cette session, nous avons une autre plateforme que M. Alain Prial va nous faire des propositions pour qu'on aille vraiment à l'action parce que ce serait bien dommageable. Et l'espoir sera moins très réduit si on sort de ce symposium, avoir eu toutes ces connaissances sans des actions, et surtout des actions prioritaires, parce qu'on sait tout, on a fait beaucoup de choses, on est en train de faire, mais qu'est-ce qu'on va faire prioritairement pour que non seulement on utilise ces connaissances qu'on a sur l'anthropologie, de la sociologie, pour qu'elles soient utiles à notre action de santé publique, notre action médicale, mais aussi notre action par rapport à la recherche de plus de connaissances, mais des connaissances pertinentes pour générer des résultats. Et c'est ça qu'on nous demande, je pense. L'OMD 5, c'est les résultats. C'est les résultats. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la santé maternelle d'une manière générale? Quels sont les grands piliers qui soient du système de santé? Il faut en revenir là, parce que ce système de santé n'est pas réducteur. Il a une bonne partie, le cadre, c'est la communauté, c'est les ménages, c'est les individus que sont la femme et l'homme. Et de l'autre côté, nous avons cet ensemble qui constitue toute l'offre de soins en matière de prévention, d'éducation pour la santé. Docteur Dagodi nous a bien vu montrer les limites peut-être des messages et par rapport au circuit de communication qu'on utilise ou aussi les hommes qui animent cette communication pour aller donner le meilleur message qui soit compréhensible et qui soit bien compris et qui débouche sur une action concrète par rapport à la prévention ou à la prise en charge des soins. Donc vraiment, véritablement, je voudrais remercier tout le monde et je vais laisser la parole au docteur Prial pour nous donner les éléments de l'organisation pour qu'on aille rapidement, soit au tableau de groupe ou comment on va faire en tout cas pour avoir des actions concrètes de résolution pour ce symposium-là.
Merci Madame la Présidente. Oui, effectivement, on arrive au terme de ce colloque qui, je crois, a été absolument passionnant pour nous, les organisateurs, et j'ai l'impression, que j'espère en tout cas pour une bonne partie de l'Assemblée, d'après les feedbacks que j'ai. Maintenant, il faut qu'on trouve, effectivement, comme l'a dit la présidente, il faut que nous trouvions des pistes d'action. Bon, on avait prévu au départ on a remodelé l'agenda pour avoir du temps ce matin pour faire des travaux de groupe. Je pense que ça va pas être possible puisqu'on a prévu de finir à 15h30 aujourd'hui et que les débats ce matin, les présentations ont été absolument passionnantes et je pense ont vraiment fait une bonne synthèse, une bonne conclusion d'une certaine manière de tout ce dont on a discuté pour remettre tout en perspective. On va pas pouvoir malheureusement, et on a laissé le temps exprès parce que je pense que c'était nécessaire et on va sûrement être un peu frustré en sortant si en même temps on peut pas avoir des pistes pour l'action. Donc je vais vous proposer une manière de travailler cet après-midi, mais avant je voudrais juste vous montrer deux slides auxquels la présentation de Madame Sow m'a fait penser pour montrer que on avait encore beaucoup de travail à faire, puisque c'est dans un de nos pays voisins. Je ne voudrais pas choquer nos amis qui sont ici de ce pays que je ne nommerai pas, mais c'est quand même la place de la femme, c'est assez célèbre. Je pense que ça illustre assez bien la manière dont le sculpteur et à l'époque le commanditaire de cette magnifique œuvre d'art avait sa vision de la femme. Et juste une deuxième slide qui est assez connue aussi, qui circule sur Internet, qui n'est visiblement pas africaine, mais qui quand même illustre bien notre propos sur le genre et sur la situation de la femme dans le monde en général. Et j'en profite pour raconter une anecdote, je pense qu'il illustrera peut-être le propos rapidement. Je ne veux pas vous embêter avec mes affaires personnelles, mais le propos de notre ami Ismaël Famanta. Il se trouve que ma femme que vous avez vue hier a une belle sœur, sa sœur en fait, qui est l'actuelle vice-présidente de l'Assemblée nationale du Mali. dans dont le mari est aussi député de Tombouctou, dont certains, encore d'autres sœurs, sont actuellement ministres dans le cabinet d'ATT. Et je dis ça parce que je pense qu'on a un long chemin à faire. J'étais à Bamako il n'y a pas longtemps, et son frère, qui n'est pas encore marié, qui est le même âge qu'elle, ne trouvait pas d'épouse qui lui convenait. Et finalement, il a demandé à la famille de lui choisir sa femme, quoi. Et finalement, c'est ces grandes dames qui ont identifié la fameuse épouse qui a 16 ans ou 17 ans, qui va arrêter ses études parce qu'elle va se marier. Et je lui ai dit, mais quand même, c'est un type quand même très éduqué. Je lui ai dit, mais quand même, tu vas pas te marier comme ça. Je lui ai dit, tu la connais au moins, quoi. Elle me dit, oui, je l'ai vue quand elle avait 4-5 ans, quoi. Bon. Et mais c'est tout à fait authentique et ça date d'il y a 15 jours, quoi. Et donc j'ai dit, attends, tu vas quand même pas te marier à une fille que t'as vue quand elle avait 5 ans, que tu connais pas, quoi. Elle me dit, oui, mais tout le monde m'a dit qu'elle était bien, c'est une cousine, y a pas de problème, quoi. Enfin bon, voilà, je trouve que pourtant dans une grande famille du Mali, au pouvoir, enfin, qui théoriquement sont des gens, enfin, qui sont pas théoriquement, qui sont des gens extrêmement éduqués et extrêmement riches, accessoirement. Je pense que ça nous renvoie un petit peu à la réalité des choses et de se dire qu'on a beaucoup de chemin à faire avant que la femme soit vraiment libérée et qu'on puisse avancer sur ce terrain-là. Mais le combat continue et on va le mener, c'est clair. Alors, en ce qui concerne le travail qu'on va faire, donc je pense que c'est un schéma que j'ai mis, c'est une caricature que je cherche depuis 10 ans. Et qui résume assez bien, je trouve, tout le monde du développement. Je voulais faire ma communication ce matin en me basant sur ce schéma et en élaborant un peu, mais je peux pas me priver du plaisir de vous montrer cette caricature où on a la pauvre paysanne qui est en train de travailler, derrière le paysan qui vérifie que sa femme travaille, l'agronome qui fait le suivi de l'exploitation agricole, le sociologue qui observe le comportement de l'agronome, l'anthropologue qui analyse les relations observateur-observée, hein, c'est exactement ce dont on a parlé depuis le début, le politologue qui observe le processus d'observation, le bailleur de fonds finançant le tout, et finalement le contribuable ignorant ce qui est fait de son argent, quoi. Et ce schéma, je l'ai cherché, ça fait 10 ans que je le recherche. Je l'avais vu au ministère de la Santé à Nouakchott quand j'y étais, puis il avait disparu. Vraiment, depuis 10 ans, je le cherche, je l'ai retrouvé chez un de mes collègues au bureau ici à Nouakchott. Donc je l'ai tout de suite scanné, j'ai dit, attends, celui-là, je veux pas le perdre. Je trouve qu'il illustre de façon extraordinaire tout ce dont on est en train de parler, la manière dont on fonctionne les uns les autres. Voilà, donc on avait prévu 3 ateliers, en fait, sur 3 thématiques, hein, qui étaient quand même les thématiques de ce symposium. Bon, c'est évidemment un petit peu orienté, mais on avait prévu 3 ateliers, donc un atelier, un PF, prévention des avortements à risque, sexualité, tout ce qui tourne autour de ce sujet. Un 2e atelier, accès, utilisation, fonctionnement des services, avec bien sûr tous les problèmes de formation, d'accès, etc. Et un 3e atelier sur information des politiques, gouvernance, décision, comment on peut, à partir, on en a beaucoup parlé ce matin, je crois, comment on peut, à partir des connaissances qu'on a en tant que technicien, mais aussi que les anthropologues ou d'autres, des historiens, les sociologues peuvent nous donner, comment essayer d'influer un peu plus la décision politique. On a une ancienne ministre de la Santé ici qui peut être un excellent chef de groupe là-dessus. Malheureusement, on va pas avoir le temps. Donc moi, ce que je suggère, c'est que oui, et ce que je suggérais, c'est que pour chacune de ces problématiques, on essaie chacun de ressortir les principales thématiques, plutôt les principales problématiques qui ressortent pour chacune de ces thématiques des présentations et des discussions, des pistes pour des actions communes et concrètes, s'il vous plaît. Pas comme j'ai entendu récemment dans un autre colloque, yaka, 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 mais vraiment des choses très pratiques et des pistes pour des axes de recherche-action. Alors comme on n'a pas le temps de le faire en groupe, Moi, ce que je suggère, si vous êtes d'accord, on va à la pause, on revient à 14h. On avait prévu jusqu'à 15h30. On peut peut-être essayer en groupe de travailler sur chacune de ces thématiques tous ensemble, en évitant les grands discours, mais avec vraiment, voilà, moi, ce que j'ai retenu, c'est 1, 2, 3. On peut même faire distribuer des petits papiers, vous notez dessus, comme ça, ça évite que chacun parle pendant une demi-heure. Et on essaie de synthétiser, et après, on essaiera de faire la synthèse, peut-être un peu plus tard, qu'on partagera avec vous et sur lequel vous donnerez le feedback. Je pense qu'on sera, on n'a pas le temps matériel de faire ça, à moins que vous soyez d'accord pour rester jusqu'à 19h. Moi, ça ne me gêne pas du tout, j'y serai de toute façon, mais bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, ça vous va comme ça? Je propose, Madame la Présidente, qu'on parte à la pause. On revient. On essaie, par contre, d'être là vraiment à 14h précises pour qu'on ait du temps quand même pour discuter en une heure et demie. Je sais bien que ça va être un peu frustrant de concentrer tout ce qui a été brainstormé, enfin tout ce qui a été dit pendant ces 3 jours, mais bon, on n'a pas le choix et c'est souvent comme ça. Donc vous êtes d'accord sur le principe ? Il n'y a pas de vote à main levée, mais enfin, je vois personne qui dit non, donc on va dire que tout le monde est d'accord. Ben, bon appétit. Il y a quelqu'un qui dit non. Qui dit non ? Ou qui a un commentaire ou une proposition ?
Halima. Hein ?
Ah, Halima, pardon.
En revenant, je pense, nous aurons une heure pour faire ça, n'est-ce pas ? Je pense que ce que vous avez dit, on peut le faire dans les petits groupes et que ces 3 groupes, s'attellent à vraiment écrire et rapidement ces suggestions concrètes. Et après, vous les prenez. Parce que les faire dans le grand groupe, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps.
Bon, est-ce que vous êtes d'accord sur cette contre-proposition ? Oui, Madame la Présidente.
On revient à la proposition antérieure, en fait.
Oui, en fait, le problème qui se pose, c'est que même par rapport à l'installation du groupe, nous allons perdre du temps. Moi, ce que je souhaite, c'est ceci. Qu'on donne à chacune une feuille. Chacun rédige quelque chose par rapport à ses axes de réflexion. Et en revenant, le jury va prendre et dépouiller, prendre les choses communes, et puis on les projette, les gens vont discuter. C'est plus pratique, parce qu'en fait, le fait de mettre les travaux de groupe va poser problème. Les salles, il faut partir avec les groupes, etc. Ça va faire prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et l'autre chose aussi, le fait de le discuter ici va poser aussi problème, parce que peut-être qu'il y aura des opinions qui ne seront pas prises en compte parce que les uns parleront plus que les autres. Je vous remercie.
Bon, donc il y a 2 propositions contraires. Mariam, moi, je comprends ce que tu dis, mais les salles sont déjà prêtes. On est des grandes personnes, on peut essayer dans les travaux de groupe de vraiment se focaliser sur l'essentiel. On a préparé des petites fiches, un peu comme on fait souvent, c'était où chacun met ses idées. On affiche au mur, on met ensemble tout ce qui se ressemble et on avance comme ça. Normalement, on n'est quand même pas très nombreux dans chaque groupe, on sera une quinzaine peut-être. Et on maintient ça et puis... Et puis, Inch'Allah, quoi. OK.
Bon appétit. On va manger et on va vraiment produire quelque chose.